Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais séchez vos larmes, chers auditeurs, car le meilleur reste à venir. Le débrief de la matinale de Pierre de Villeneuve. Pierre qui me faisait en coulisses cette remarque, a priori frappée au coin du bon sens, je cite « Mais pourquoi tu t'acharnes sur la matinale alors que dans ton 5-7, question connerie, ça doit y aller aussi ?» Pierre, d'abord je ne vous permets pas. Ensuite, vous apprendrez que non, question connerie, ça n'y va pas aussi chez nous, comme vous dites. Je présente une tranche info, extrêmement rigoureuse, entourée d'une équipe de professionnels, absolument, dont tous ont fait le CFJ, ou à minima sport-études à Aix-en-Provence.
Je vous raconterai un truc sur Marie-Josée Pérec. J'ai fait de la compétition.
Oui, on s'en fout. Je peux vous dire que je tiens tout ce joli monde avec une poigne de fer. La rigolade, ce n'est pas le genre de la maison. Nous, c'est l'info, rien que l'info.
Aïe, 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 c'est le mot.
Bon. Bref, un partout, la balle au centre. On passe à votre matinale, mon cher Pierre. Une fois de plus, un quasi sans faute. Et en plus, c'est vrai, il faut dire que vous êtes un immense professionnel, difficile à prendre en défaut, car profondément perfectionniste. Par exemple, là où chaque matin, Nico se contente de s'enfiler une tartine de poutargue à froid, vous, Pierre, vous prenez le temps de vous échauffer la bouche.
Bon.
Ça fait toute la différence. Enfin, jusqu'à un certain point, car on a trouvé quand même votre talon d'Achille hier, le foot. Clairement, contrairement à des sports plus populaires comme le golf, le polo ou la chasse au rhinocéros en Namibie à dos de gnou, le football n'est pas visiblement votre tasse de thé. On peut le dire, bien, vous vous en foutez comme de votre premier flash de nuit. Et hier, au moment de conclure la séquence sur le match du PSG, ça s'est un peu senti.
Merci beaucoup Alain Roche, consultant foot d'Europe 1, soirée spéciale sur Europe dès 20h ce soir autour de Lionel Rousseau et jusqu'à 23h30. Merci Alain et allez les Bleus.
Après tout, Paris joue aussi en bleu. Ça marche pareil, voilà. C'est peut-être vous qui vous avez porté la poisse. Bref, un quasi sans faute, et ça tombe bien, Pierre, car nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais mi-mars, dans l'audiovisuel, c'est l'ouverture tacite de la période du mercato. Et si certains joueurs stars, titulaires indiscutables et historiques, comme Laurent Cabrol, s'en foutent, ne témoignant pas d'un zèle particulier.
On va retrouver Laurent Cabrol.
Oui, vous voulez savoir
La météo.
Le temps du jour.
S'en fout, Lolo. D'autres, en revanche, font leur maximum pour se faire bien voir de leur hiérarchie, ce qui peut être compliqué lorsque, comme Céline Dacosta, on a plusieurs hiérarchies.
C'est le plus beau, Mathieu. Enfin, après toi, Pierre.
Comment ça, après toi, Pierre? Expliquez-vous, Dacosta. Qui est le plus beau?
Les deux, tous les deux.
Bon, les deux, voilà. Ça va, on prend avec Pierre. On prend.
Mais vous êtes plus grand, Pierre. Oh, c'est vrai, en plus.
Bon, Céline, on s'expliquera après. Je vous laisse avec Pierre, on parlera de ça tout à l'heure.
Merci, les amis. Allez, on vous retrouve demain pour un sans faute, évidemment, dans le 5-7 d'Europe 1. Bonjour à tous. Bonjour Céline.
Bonjour Pierre.
Nous sommes le jeudi 7 mars 2019. Le PSG est-il sous le coup d'une malédiction? 2 ans après la remontada du Barça, le même scénario, ou presque, s'est produit hier sur la pelouse du Parc des Princes. Manchester United a réussi son comeback 3-1. Thomas Tuchel ne comprend pas. À vrai dire, nous non plus. Nous revenons longuement sur cette triste défaite dans ce 7-9. Nous sommes le 7 mars et c'est aujourd'hui que Marlène Schiappa organise un événement dédié aux mères isolées. Célibataires, divorcées, elles élèvent souvent seules des enfants. Une grande partie sont en surendettement. Vous les entendrez, ces mamans en détresse. Et notre consoeur Christine Kelly, qui préside l'association Cas d'urgence, s'allie à cette conférence. Elle sera mon invitée à 7h45. Témoignage également dans ce 7-9, celui d'un surveillant de prison. Vous l'entendrez, il raconte comment lui et ses collègues doivent déminer la situation constamment avec de jeunes détenus qui n'ont plus aucune limite. L'eurodéputé RN Nicolas Bay sera là à 8h15 avec Audrey Crespo-Mara. Et puis vous entendrez comme les standardistes de l'hôpital de Genève croulent sous les appels d'Algériens qui demandent des nouvelles d'Abdelaziz Bouteflika. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour nous accompagner. Et pour vous accompagner, surtout, on est là avec vous jusqu'à 9h. Ça va, Laurent Cabrol?
Ouais.
Ça, c'était un départ arrêté, ça.
Non, ça va bien. Écoutez, je suis un peu déçu parce que quand on regarde des prévisions à moyen terme, je dis à nos amis qui en ont déjà un petit peu marre de ce
que vous alliez parler
du
de Paris.
PSG. Ouais.
Non, PSG, je m'en fous un peu. Alors, voilà, en ce qui concerne le. Moi, je suis rugby, moi, que voulez-vous. En ce qui concerne le temps et l'avenir, il n'est pas brillant parce que, franchement, jusqu'au 15, peut-être le 18 mars, nous aurons ce type de temps. Je ne pousserai pas jusqu'au 20, mais presque. Enfin, aujourd'hui, dans le sud-ouest, quand même, sur l'Ardèche, sur la vallée du Rhône, les Alpes, le littoral méditerranéen et la Corse, nous aurons du soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle, avec des vents de nord qui vont arriver, qui vont rafraîchir l'atmosphère. Sur les Vosges, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, c'est de la pluie et de la neige. Alors la neige à partir de 1200-1300 mètres sur les Alpes, mais dans l'ensemble, il pleuvra dans ces contrées. Et puis ailleurs, ce sera ce fameux régime d'averse de giboulée. Enfin bref, tous ces régimes que nous avons depuis maintenant plusieurs jours. Donc sur la Manche, ça va être la Loire, la Bourgogne, le Centre, le Limousin, des averses généralisées avec des orages aussi. Sur Champagne-Ardenne et sur Paris, amélioration progressive. Ce matin, c'est pas mal sur la capitale, ce sera beaucoup moins bien cet après-midi. Et puis sur le Poitou-Charentes, aggravation fin d'après-midi, enfin en début de soirée. Température maximale aujourd'hui, entre 12 et 17 degrés. 17 à Lyon, 12 à Caen et 13 dans la capitale.
Merci Laurent Cabrol.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 en ce jeudi 7 mars. Excellent réveil, 17h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
7h, le journal Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Comment dit-on cauchemar en anglais ? Hier soir, Manchester remet avec Nightmare. Le PSG, battu 3-1 à domicile, et fait ses adieux à la Ligue des Champions. La France n'a pas attendu l'ONU pour faire la lumière sur les violences policières lors du mouvement des Gilets jaunes. Réponse du Premier ministre Édouard Philippe à la Haut-Commissaire des Nations Unies. Dans ce journal également, la suite du grand débat avec les maires célibataires qui prennent la parole en Seine-Saint-Denis. Et puis cette nouvelle menace pour les forêts françaises, un micro-champignon venu d'outre-Atlantique commence à faire des ravages en Bretagne.
Europe 1.
Il y avait la remontada du FC Barcelone. L'histoire du foot retiendra donc aussi le comeback de Manchester United. Les Anglais, qu'on disait décimés, privés de leur star Pogba, ont renversé Paris 3-1 hier soir au Parc des Princes. Le PSG est donc éliminé de la Ligue des Champions. Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
Vous nous avez fait vivre cette rencontre sur Europe 1, match au scénario catastrophe. Un but offert par la défense parisienne dès la deuxième minute de jeu, une boulette du gardien Gigi Buffon et un pénalty concédé en toute fin de match. Dans quel état, Julien, avez-vous retrouvé les Parisiens au coup de sifflet final ?
Eh bien, l'image qu'on retient, évidemment, c'est Kylian Mbappé allongé sur la pelouse, les mains sur le visage, inconsolable à l'image d'un Paris Saint-Germain sonné, abattu après l'improbable comeback anglais. Le défenseur Marquinhos, seul joueur qui est venu nous parler après l'élimination, ne mâchait pas ses mots.
C'est inadmissible, il y avait beaucoup de colère, c'est un moment difficile, savoir qu'on peut faire mieux, pas trop parler parce qu'il fallait faire sur le terrain, on n'a pas fait, on est très dégoûté de cette soirée.
La suite, Julien Froment, c'est quoi ? On a vu hier soir en tribune le grand patron du PSG, l'émir qatarien Tamim Al-Thani. Ça va pas forcément se passer très bien dans les mois qui viennent.
C'est le grand flou pour le Paris Saint-Germain financièrement. Tout d'abord, cette élimination, ce sont des revenus en moins, une mauvaise nouvelle dans l'optique du fair-play financier. Cet énième débâcle va aussi raviver les tensions en interne, notamment les relations déjà orageuses entre l'entraîneur Thomas Tuchel et la direction sportive. Enfin, le cas Neymar, il est déjà annoncé du côté du Real Madrid. Les rumeurs risquent de s'amplifier d'ici l'été. Bref, vous l'aurez compris, Paris est perdant sur toute la ligne et peut s'attendre à vivre une fin de saison des plus pénibles.
Effectivement, merci beaucoup Julien Froment. On parlait des joueurs, les supporters parisiens sont évidemment eux aussi effondrés. Des larmes ont même coulé dans les travées hier soir à la fin du match.
J'ai pas les mots, c'est horrible. Tous les ans, il se passe quelque chose, tous les ans.
Là, je pense que c'est les dieux du foot qui sont pas avec nous en ce moment.
Je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté parce que... À Paris, ils avaient la balle. Après, il faut savoir marquer. Quand ils ont la balle comme ça, il faut savoir marquer. Il manque d'envie. Et puis, il y a la poisse des huitièmes. Ça fait 3 ans, là. Ça commence à faire beaucoup, là.
C'est le destin. Ils pensaient que c'était gagné. Et puis, voilà, ils n'ont pas joué. Ce qui devait arriver est arrivé.
Des supporters du PSG au micro Europe 1 de Clément Paulin.
Il est 7h03.
La réponse d'Édouard Philippe aux accusations de l'ONU sur les violences policières.
La haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a demandé à la France une enquête approfondie sur l'usage de la force face au mouvement des Gilets jaunes, s'appuyant sur un rapport d'experts qui pointe la répression dans plusieurs pays, comme le Soudan ou le Venezuela. Sèche réplique hier soir sur BFM TV du Premier ministre. Écoutez.
Il faudra probablement expliquer à Madame le haut-commissaire l'ensemble des faits, et notamment l'extrême violence qui s'est déchaînée sur les forces de l'ordre, ou sur un certain nombre de propriétés privées ou de biens privés. Parfois sur des biens publics, parfois sur des symboles de la République. On n'a pas attendu, pardon de le dire comme ça, mais on n'a pas attendu le haut-commissaire de l'ONU pour faire toute la lumière sur l'ensemble des faits dès lors qu'il y a des plaintes et dès lors que nous considérons qu'il faut évidemment faire la lumière et faire toute la transparence sur l'ensemble des faits. Mais j'aime beaucoup entendre les conseils du haut-commissaire de l'ONU. Enfin, je rappelle qu'en France, on est un état de droit. et que la République, à la fin, elle est la plus forte.
Le Premier ministre Édouard Philippe qui renvoie donc l'ONU dans les cordes. L'opposition politique à l'Assemblée s'est en tout cas tout de suite emparée du sujet, Adrien Beck.
De la France insoumise au Parti socialiste, la tonalité est la même après la mise en garde de l'ONU sur un usage excessif de la force dans la crise des Gilets jaunes. On vous avait prévenu, c'est ce que martèle Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis.
Nous n'avons cessé depuis le début des mobilisations de dénoncer l'arsenal qui est mis à disposition des forces de l'ordre par le gouvernement et qui est un arsenal totalement disproportionné. Ce régime est autoritaire, il faut appeler un chat un chat.
Et le responsable est tout trouvé, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ciblé à gauche mais aussi à droite. Et cette fois, dans la majorité, la défense est difficile, la gêne perceptible. Sacha Houlier, député LREM, rappelle que 162 enquêtes sont déjà ouvertes par la police des polices.
On ne cache rien à personne et on assume pleinement toutes nos responsabilités. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a de nombreux pays dans le monde qui pourrait prendre exemple sur la France, sur la transparence dont elle fait l'objet.
La France qui, malgré tout, fait profil bas, l'exécutif indique que Paris suivra avec diligence les recommandations formulées par l'ONU.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Nouveau blocage ce matin devant plusieurs prisons, dont celle de Fleury-Mérogis. Les syndicats des surveillants demandent toujours plus de garanties de sécurité, deux jours après l'agression au couteau de deux de leurs collègues à la prison de Condé-sur-Sarthe. La nuit a de nouveau été agitée à Grenoble, dans le quartier Mistral, après une marche blanche pourtant calme hier après-midi, en mémoire des deux jeunes morts samedi soir alors qu'ils roulaient sur un scooter volé poursuivi par la police. Des voitures ont à nouveau été incendiées, les forces de l'ordre visées par des projectiles. Deux personnes ont été arrêtées.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, la suite du journal de Théo Manval avec le grand débat et les mères célibataires qui prennent la parole. À tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Théo Manval avec les familles monoparentales au cœur du grand débat ce soir en Seine-Saint-Denis.
D'après les chiffres de l'INSEE, 85% des parents qui élèvent seuls leurs enfants sont des femmes et plus d'un tiers vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont ces mères seules qui prendront la parole ce soir en Seine-Saint-Denis lors d'un débat animé par la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Des mères comme Aurore, 35 ans, 2000 euros par mois pour élever seules ses trois enfants.
C'est très compliqué psychologiquement, des fois, ouais, c'est limite de la dépression. Des fois, bah, je dors pas de la nuit parce que je suis en train de cogiter, de me dire comment ça va se passer. Tu viens de rentrer ton argent et en fait, t'as déjà plus rien. Oui, on culpabilise de se dire, nos enfants, ils ont peut-être pas tout ce qu'il faut. C'est eux d'abord et moi après, quoi. Ça m'arrive de pas manger. On garde tout ce qu'on peut garder pour nos enfants. Ils peuvent facilement croire que c'est de leur faute si y a des soucis, si voilà. C'est toujours système D, les gros volumes, les promotions. La lessive, tu regardes au nombre de lavages. Si c'est pas trop cher, les pâtes, pareil, au kilo, tu regardes à combien ça te revient, si c'est avantageux ou pas. Sortir, c'est... Voilà. Cinéma, on peut pas. Hein. Quand on voit qu'on est 4, ça fait tout de suite 40 euros. Hein. T'es toute seule pour gérer ça et... Il faut que t'avances, quoi.
Un témoignage d'Aurore, mère célibataire de 35 ans. Elle répondait à Roman Hockey pour Europe 1.
Et notre consoeur Christine Kelly, qui est aussi la présidente de l'association Cas d'urgence, qui participera à cette conférence, sera mon invitée tout à l'heure à 7h45.
Au volet judiciaire, verdict attendu aujourd'hui à Lyon dans le procès du cardinal Barbarin, poursuivi pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles d'un prêtre dans son diocèse. Lors des réquisitions, la procureure n'avait pas requis de peine à son encontre.
On en vient, Théo, à cette nouvelle menace pour les forêts française.
Elle s'appelle Phytophthora ramorum. C'est un champignon microscopique qui a traversé l'Atlantique et qui s'attaque désormais à nos mélèzes. 50 hectares d'arbres contaminés ont dû être abattus dans le Finistère. Les autorités parlent d'un danger sanitaire de première catégorie. Reportage François Coulon.
C'est ici, dans les monts d'Arrée, que le Phytophthora ramorum a frappé brutalement les forêts de Anvec et de Saint-Cadou. 50 hectares de mélèzes du Japon ont dû être abattus pour tenter d'éradiquer ce champignon redoutable. Le professeur Philippe Regnault, directeur de la santé des végétaux à l'ANSES.
Ça provoque une chute brutale de la totalité des aiguilles, les rameaux des arbres qui apparaissent comme brûlés, des chancres qui sont comme de grosses tumeurs externes, et ça aboutit à la mort de l'arbre. La grosse inquiétude à l'heure actuelle, c'est le châtaignier.
À l'actif de ce parasite planétaire, des milliers d'hectares de chênes décimés aux États-Unis, 20 000 hectares de forêts ravagées en Grande-Bretagne, où les châtaigniers continuent de payer un lourd tribut, ce que redoute René, exploitant forestier à Saint-Cadou.
Ah ouais, châtaignier, on voit certains qui meurent sur pied, on voit. Il y a le tronc qui est bien et tout d'un coup, on voit les branches sèches. Ce bois-là est prévu pour faire des parquets. On ne peut pas faire un parquet avec ça.
Des rhododendrons auraient joué les contaminateurs dans une Bretagne propice, notamment pour son climat. Tous les massifs forestiers français, mais aussi pépinières et jardineries, sont étroitement surveillés par les autorités. Saint-Cadou, François Coulon, Europe.
Et puis Pierre, je ne sais pas si vous prenez des compléments alimentaires qui améliorent soi-disant la performance de notre cerveau, ginkgo biloba, vitamine D ou guronzan. La majorité d'entre eux n'a aucun effet ou peut même être dangereux selon une étude du magazine 60 millions de consommateurs. Les quantités de vitamines ou même de sel peuvent être trop importantes et donc nuisibles. Voilà, vous êtes prévenus si jamais vous en
On
prenez.
On est prévenus. Merci, c'était le journal de Théo Manval.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et à 7h10, Pierre, on va retrouver Martin Fenot qui se trouve quelque part en France sur le terrain.
Quelque part, mais où ? Bonjour Martin.
Bonjour Pierre.
Vous êtes où ce matin ?
Alors je suis devant une sorte de librairie en plein air, unique au monde. Alors, il y a des vieux bouquins à la couverture usée, gardés dans des boîtes en métal, de vrais petits coffres au trésor fermés par des cadenas. Je suis sur les quais de Seine avec les bouquinistes de Paris qui viennent d'entrer au patrimoine culturel immatériel français. Les bouquinistes, ce sont, vous savez, ces libraires d'un autre temps qui vous vendent leurs livres anciens, là directement sur le trottoir.
On n'imagine pas les quais de Paris sans les boîtes des bouquinistes. Ça fait vraiment partie de la culture de Paris depuis des siècles. On a toute la planète qui défile ici. On a des gens très connus. Moi, j'ai eu Spielberg comme client. Il y a eu McCartney qui est passé. Il y a des tas de gens. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Excusez-moi. J'ai salué Benoît qui passait. C'est un des plus importants libraires européens. Ben voilà, il fait aussi les quais.
Mais Martin, est-ce que ces bouquinistes sont de vrais experts ?
Ah, clairement, quand vous vous approchez, par exemple, des boîtes de Michel, elle vous présente ses livres et puis elle sort de son sac sa dernière trouvaille.
Mais c'est un livre, vous voyez, beaucoup d'écrivains décrivent la beauté des femmes par leurs cheveux, leur peau, leur bouche, leur corps. Lui, il décrit la beauté d'une femme par ses gestes.
Voilà, vous entendez, elle connaît parfaitement la vie, l'histoire des œuvres qu'elle vous vend.
C'est pas de la librairie moderne, la librairie ancienne, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Déjà, il faut trouver les livres, mais quand on l'a, il faut faire des recherches dessus. Il faut voir si c'est la bonne édition, il faut ce qu'on dit dans le métier, le collationner, pour voir s'il ne manque pas de pages, si toutes les illustrations y sont, parce que je ne veux pas vendre un livre incomplet à quelqu'un.
Mais Martin, c'est un hobby ou est-ce qu'ils vivent de leur métier ?
Alors difficilement, ils en vivent, ils gagnent quelques centaines d'euros par mois, tout dépend aussi de la météo, mais ce sont des passionnés, c'est ce qui attire les touristes comme ce couple suisse.
À chaque fois, on va ici pour nous promener un peu. Tout ce qu'ils ont, ce sont des trésors parce qu'on ne peut pas les acheter ailleurs.
En Suisse, c'est très, très connu, c'est le témoignage du passé.
Voilà pour ce témoignage, ça va leur apporter quoi cette entrée au patrimoine immatériel français ?
Alors la protection de leur métier, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent. Et puis c'est un premier pas vers une reconnaissance internationale. Ils sont en train de construire un dossier de candidature pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Merci Martin Fenot avec les bouquinistes de Paris qui se lèvent tôt, hein, vous l'entendez. Dans les rues de Paris, on a un peu plus de 200 aujourd'hui sur les quais de Seine.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre l'édito éco signé Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
L'Italie flirte avec la Chine et vous nous dites attention, liaison dangereuse.
Oui, il y a de quoi s'inquiéter effectivement de cette liaison entre Rome et Pékin.
Et à 7h20, un dossier qu'Europe 1 suit de près et qui inquiète. Hein, la fermeture des petites maternités en région, des femmes qui ne peuvent plus accoucher près de chez elles avec des alternatives qui ne font pas l'unanimité. C'est une enquête à suivre tout à l'heure dans Europe 1 va plus loin.
Excellent réveil sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Il est 7h13. Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre de Villeneuve.
Verdict attendu aujourd'hui à Lyon au procès du cardinal Barbarin, poursuivi pour non-dénonciation de crimes pédophiles d'un prêtre de son diocèse. Le procureur n'avait pas demandé de peine à son encontre lors des réquisitions. La malédiction se poursuit pour le PSG en Ligue des Champions, défaite 3-1 hier soir au Parc des Princes face à Manchester United. Paris quitte la compétition en 8e de finale pour la 3e saison d'affilée. La France n'a pas attendu l'ONU pour faire la lumière sur les violences policière lors des manifestations des Gilets jaunes. Réponse d'Edouard Philippe au Haut-Commissaire des Nations Unies. 111 enquêtes ont été ouvertes, dit-il.
Europe 1.
Et à présent, Pierre, c'est l'heure de l'édito éco avec Les Derniers, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Les Derniers, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, l'Italie est-elle en train de devenir la meilleure alliée de la Chine en Europe? Elle s'apprête à ouvrir grand ses portes aux investisseurs chinois et donc à leur donner accès au marché européen.
Eh bien oui, parce que l'Italie s'apprête à rejoindre le fameux grand programme de route de la soie chinois. Le président chinois Xi Jinping sera à Rome le 22 mars. Un accord pourrait être signé à ce moment-là. Le programme de route de la soie, vous le savez, c'est ce projet planétaire de route maritime, terrestre, qui doit permettre à la Chine, au fond, de redessiner la carte de son influence mondiale. Pékin a déjà enrôlé 80 pays en Asie, au Proche-Orient, en Afrique, en construisant des infrastructures là-bas, sur fond chinois, avec uniquement des entreprises chinoises, bien évidemment. C'est une sorte de plan Marshall à l'échelle du monde, à l'échelle des ambitions de ce régime.
Et donc, il manquait un pays européen dans le paysage.
Alors, il y en a déjà, mais ce sont des pays de l'Est de l'Europe. Avec l'Italie, évidemment, la Chine décrocherait pour la première fois un pays du G7, un membre fondateur de l'Union européenne. Washington et Bruxelles s'en inquiètent, car le but évident des Chinois, c'est évidemment l'accès à notre marché. L'Italie est un cheval de Troie formidable. Remarquons d'ailleurs que ce pays, dirigé par une coalition populiste qui s'est fait élire en promettant de protéger les frontières, ferait exactement le contraire. La star du gouvernement italien, Matteo Salvini, l'allié de Marine Le Pen, n'est pas à une contradiction près. Les mêmes qui accusent Bruxelles de ne pas assez défendre les intérêts européens font les yeux doux à la Chine.
Et bien sûr, Bruxelles s'en inquiète.
Bah oui, parce que c'est pas la première alerte. L'Italie de Salvini est le seul pays européen à ne pas avoir approuvé le projet poussé par la France et l'Allemagne de contrôle des investissements étrangers. Ça vise évidemment les Chinois, parce qu'ils rachètent des pépites européennes. La Chine a acheté le port du Pirée en Grèce, elle a acheté une banque au Luxembourg, ça lui donne l'accès à tout le marché bancaire européen d'ailleurs. Elle a pris le contrôle de l'EDF portugais, et avec l'Italie évidemment, elle pousse ses pions beaucoup plus loin, avec la complicité donc d'un gouvernement populiste qui au fond se moque pas mal des intérêts des Européens.
Merci beaucoup Nicolas Barré pour l'édito Écho tous les matins sur Europe 1.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin. Coup de projecteur ce matin sur la fermeture des petites maternités, Pierre.
Et un chiffre pour bien comprendre le problème, on est passé de 814 maternités en France en 1996 à moins de 500 aujourd'hui. Ça continue de baisser. Lundi, la maternité de Bernay dans l'Eure fermera ses portes. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Pierre.
La première question est un peu naïve, mais comment on fait du coup pour accoucher quand la maternité de sa ville a fermé?
Eh bien, on n'a pas le choix, on fait de la route, Pierre. Parfois 50 km en pleine campagne pour aller dans la nouvelle maternité la plus proche. Quand le bébé arrive plus tôt ou plus vite que prévu, ça peut poser problème. C'est ce qui est arrivé à un couple de 10 dans la Drôme. Là-bas, plus de maternité depuis un an. Alors, quand la femme de Marco a ses premières contractions en plein milieu de la nuit, il prend tous les risques en voiture pour qu'elle n'accouche pas sur le bord de la route.
Le pire, c'était pour elle. Elle était en travail devant une route qu'elle défilait à une vitesse pas normale. 150 par heure sous la ligne droite, 120, 110 dans les tournants. On arrivait dans la salle d'accouchement, si je ne me trompe pas, à 2h39 et la sortie était enregistrée à 2h42. J'avais l'adrénaline jusqu'à la pointe des cheveux et jusqu'à la pointe de mes ongles des pieds. On dirait que c'est moi qui ai accouché.
C'est totalement hallucinant. On va revenir aux fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'elle a dû fermer cette maternité?
Eh bien, comme les autres qui ferment, l'agence régionale de santé lui reprochait de ne pas être assez sûre. Pour que ça marche bien, une maternité, il faut des gynécologues et des anesthésistes de garde, des pédiatres aussi. C'est donc la pénurie de médecins qui crée cette insécurité, confirme le docteur de Rochambeau, président du syndicat des gynécologues obstétriciens.
Quand ça se passe mal, il faut qu'il y ait le monde suffisant, compétent, avec les ressources médicales nécessaires. Aujourd'hui, dans toutes les maternités, ce n'est pas le cas. La complication qui apporte le plus de problèmes et qui est la crainte de tous les accoucheurs, de toutes les sages-femmes, c'est l'hémorragie. Une femme fait naître son enfant et dans les minutes qui suivent, il peut y avoir une hémorragie cataclysmique. Elle perd à ce moment-là 1 à 2 litres de sang en 3-4 minutes. Si vous n'avez pas les personnes ressources pour faire les gestes qui vont la sauver, vous allez perdre votre patiente.
J'entends bien, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Il faut bien les remplacer, ces maternités.
Oui, alors ça existe, ça s'appelle des centres de périnatalité. Ce sont des lieux où les femmes vont avant et après la naissance de leur enfant, mais donc sans y accoucher.
Alors, vous êtes justement rendu dans l'un de ces centres, Pierre, à Pont-Audemer, dans l'Eure, en Normandie. On écoute votre reportage.
Un cabinet de consultation, voilà à quoi se résume le centre de périnatalité de Pont-Audemer. Une simple pièce, mais avec À l'intérieur, tout le nécessaire pour suivre les femmes avant et après leur grossesse, explique la sage-femme Valérie Talbot.
Une table de gynéco, un tensiomètre, un monitoring, voir l'échographie pour m'assurer que le bébé vit dans de bonnes conditions, j'ai tout.
Tout sauf le personnel pour faire un accouchement sur place. La centaine de femmes enceintes qui vient ici chaque année est donc obligée d'aller au Havre le jour J, à 45 km de là. Ce qui les inquiète beaucoup.
Faire une heure de route pour aller accoucher, quand ça se passe mal, toujours le stress.
Si c'est urgent, on n'a pas trop le temps de faire la route, on ne sait pas comment ça peut se passer. Quoi.
Le gynécologue Alain Talbot s'empresse donc de les rassurer. Pour limiter les risques, un protocole a été mis en place.
On leur donne les consignes, à partir de quand il faut se rendre à la maternité, en fonction des conditions climatiques, de l'état des routes, le fonctionnement de la circulation, etc. Et pour leur dire, ben voilà, vous avez tant de temps pour en voir dans telle maternité de chez vous, donc il faut vous y prendre quand vous êtes dans de contractions, si vous rompez la poche des os, enfin, il y a un certain nombre de conseils pratiques à leur donner.
Le SAMU et les pompiers sont également mis dans la boucle, mais dans les faits, les naissances hors des maternités restent rares. Une seule l'an dernier, dans les urgences du petit hôpital local.
Et le paradoxe, Pierre, c'est que malgré le cri d'alarme des médecins sur les dangers de ces petites maternités, malgré les alternatives proposées, bah, les fermetures auprès du public, ça passe pas.
Non, parce que ça reste un service public qui disparaît. Alors, chaque fois, les élus locaux montent au créneau. C'est le cas d'Annick Gombert, la mère du Blanc, dans l'Indre. Là-bas, la maternité a fermé ses portes il y a 6 mois.
Moi, j'estime qu'on est en train de détruire tout un territoire, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de maternité, les jeunes couples ne veulent plus venir s'installer sur notre territoire, parce qu'ils disent, si on doit faire plus d'une heure de route pour aller accoucher, ça n'est pas possible, on va aller ailleurs, dans nos territoires. Et un hôpital médecine, chirurgie, obstétrique, un hôpital général, c'est un élément particulièrement structurant, et ça a donc un rôle pour la santé publique, mais aussi pour l'économie, pour l'aménagement du territoire.
Le plus inquiétant pour la mère, c'est que ces structures censées remplacer les maternités peuvent-elles aussi disparaître ? À Amboise, en Touraine, le centre qui a pris la suite de la maternité était à son tour menacé de fermeture par l'ARS après une baisse de subvention il y a 2 ans.
L'avenir de nos maternités en question. Merci Pierre Herbulot pour ce dossier Europe 1 va plus loin.
Si vous êtes concerné par la fermeture de ces maternités ou souhaitez simplement nous donner votre avis, appelez-nous 39 21 50 centimes la minute ou écrivez-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre avec Anis Mbida, l'innovation. Et si vous avez le mal de mer, ne bougez pas, il a quelque chose pour vous.
Bon réveil avec Pierre de Villeneuve, les 7h23. Il est 7h24, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anis Mbida, Pierre.
Bonjour Anis.
Bonjour Pierre, bonjour Céline.
Bonjour.
On a enfin trouvé une technique pour ne plus avoir le mal de mer. Fallait y penser, faire des bateaux avec des amortisseurs.
Oui, des amortisseurs, des suspensions actives comme sur les voitures. Alors j'adore l'idée. Hein. On sépare les flotteurs du bateau qui touchent l'eau et la cabine, là où il y a les passagers. Entre les deux, on installe une grosse suspension qui va amortir tous les mouvements de houle, hein, tous ceux justement qui nous donnent le mal de mer. Donc même s'il y a des vagues, la cabine va rester toujours à l'horizontale. Donc plus de montée, plus de descente. Ce sont les flotteurs en dessous qui vont bouger dans tous les sens pour compenser la houle.
Mais est-ce que ça supprime totalement le mal de mer ?
Alors vous savez, rien qu'en voiture, il y en a déjà qui ont le mal de mer. Ouais, donc c'est difficile de complètement le supprimer dès qu'il y a un engin qui bouge. Mais comme avec cette suspension, on gomme quasiment tous les mouvements de houle, ben ça sera beaucoup plus confortable et même si on est ultra sensible, il y aura beaucoup moins de chances d'avoir la nausée. Alors c'est un système qu'on doit à des ingénieurs australiens de la société Nauticraft et il sera très utile pour les marins, même pour les marins les plus aguerris puisqu'il permet d'aller beaucoup plus vite dans les vagues sans risquer de renverser le bateau.
C'est un bateau qui existe, qui est déjà commercialisé ?
Alors, il y en a certains qui arrivent. Hein. Les premiers seront construits par Yanmar. C'est un fabricant japonais. Et ça, là, il devrait arriver comme ça vers la fin de l'année. Et c'est une technologie qu'on pourrait aussi utiliser sur les bateaux de maintenance, notamment des éoliennes en mer. Hein. Vous savez pourquoi ? Ben parce que ce sont des zones où il y a énormément de vent, où il y a énormément de houle. Et bien, avec cette suspension, les techniciens auront beaucoup moins la nausée.
Les bateaux à amortisseurs, c'était l'innovation avec Anis Mbida.
L'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kalman. Mais avant, on fait un point sur la météo avec Laurent Cabrol. Pierre.
Alors Laurent.
Eh bien, c'est un temps avant le mal de mer si vous êtes en mer, puisque
ça, c'est sûr.
Il y a la houle.
Ah oui, ça bouge. Hein. Et il y a beaucoup de vent. Alors, bien sûr, le vent est présent sur les côtes, mais dans les terres. Alors, dans les terres, nous avons quand même du 80-100 km/h, parfois, dans à l'intérieur des terres, disons plutôt sur les régions montagneuses. Mais ça souffle bien. Et quelques régions auront quand même un ciel.